I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We got trips right, 864, H Dragon. Rap, rap.
Big round, Richmond, 96 double, 96 double. Richmond, Florida, Buffalo, 97 double. Hot, hot.
Right, empty backfield, shotgun Smith. Saints bring extra man out. He's going to boot to his left and run. He's going to run it 20, 15, 10, 5, touchdown. Do you believe it?
Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 45 cette semaine. Podcast en mode playoff, très heureux de vous rencontrer. Très heureux de vous retrouver pour cette petite heure de NFL. Alain Mattei au micro pour vous accompagner. À mes côtés, toujours là, Raphaël Masmejean. Salut Raphaël.
Salut à tous.
Camille est aux manettes. Salut Camille.
Salut.
Au programme cette semaine, c'est les playoffs. On l'a dit, on va forcément revenir sur les qualifications des Seahawks, Packers, Ravens et Texans. Deuxième partie d'émission, on présentera les matchs du week-end à venir. Entre temps, on va parler de l'actu de la Ligue et des équipes qui sont en vacances. Il y aura aussi la chronique de Philippe Barcelona qui est consacrée cette semaine à l'association des joueurs. Comme d'habitude, on prendra aussi vos questions. Programme toujours très dense. On s'accroche, c'est parti. Sometimes everybody cries. Everybody hurts. Sometimes.
Bad snap. And it belongs to Seattle. And Robert Griffin III is down on the ground and can't get up.
Et oui, pas la chanson la plus punchy qu'on avait pour démarrer le podcast cette semaine, mais c'était de circonstance avec ce pauvre Robert Griffin au sol. Redskins 14, Seahawks 24. Premier match de la semaine pour nous parce que le match le plus attendu. Ça a tenu ses promesses sur le fait qu'il y ait eu de l'action, du débat, de la polémique. Ça, c'est sûr que c'était le match de la semaine. Entame de match phénoménal des Redskins, 14-0 après leurs deux premières possessions. Enthousiasme, joie. Je t'envoie un SMS qui dit les Redskins en finale NFC. Note-le, je vous jure, je lui ai envoyé ça. Et là, il marque plus un point, bien sûr, normal, puisque c'est bien connu, je porte la poisse sur les pronostics. Clairement, donc on va se pencher tout de suite sur la polémique. Robert Griffin, doit-il continuer à jouer ce match aussi longtemps qu'il l'a fait, c'est-à-dire jusqu'à ce que son genou explose?
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a effectivement, on n'avait pas toutes les infos sur le moment, on n'était pas au bord de la touche, donc la décision de Mike Shanahan n'est pas aussi facile que la nôtre devant le canapé. Là, on est d'accord avec les fans des Redskins qui disent ça, voilà. Maintenant, on voit clairement qu'après les deux drives, Robert Griffin est quand même bien fatigué. Enfin, son genou, il a du mal à courir. L'interception qu'il lance, la balle... L'interception est très belle de Earl Thomas, mais on voit que la balle est quand même mal lancée parce qu'il a du mal à s'appuyer sur sa jambe droite pour faire le lancer. Et puis après, il avance plus. Donc, je pense que même un Kirk Cousins moins bon que Robert Griffin aurait été toujours meilleur qu'un joueur sur une jambe, quoi.
Bah, difficile de faire pire en même temps. 38 yards sur les deuxièmes et troisièmes quart-temps. gagner en attaque. Et clairement, bon, comme tu dis, on voit qu'il est gêné quand même.
Ah oui.
Et il est, enfin, pas qu'un peu, il est vraiment très gêné. Et pour un quarterback qui est mobile comme lui, faut quand même se demander à un moment s'il fait pas plus de mal que de bien à l'équipe. Mm. Et alors, le côté, Mike Shanahan l'a écouté, il lui a dit qu'il allait bien, il lui a dit qu'il voulait continuer. Le joueur, il va toujours vouloir continuer. Oui, c'est un joueur. Bah. Le joueur, il veut toujours continuer, c'est normal. Il veut aider son équipe, il pense qu'il est le meilleur, ils ont de la confiance, ils sont à ce niveau-là. C'est pour ça. Mais ton rôle de coach, c'est de savoir si justement, si justement, il fait du mal à ton équipe, et si toi, tu dois prendre la bonne décision, et aussi si de toute façon, ça sert à quelque chose. Enfin, alors, ça sert forcément à quelque chose de se qualifier parce que t'as une meilleure chance. Mais dans quel état il aurait été la semaine d'après ?
C'est ça, ouais. Face aux Falcons.
Donc, c'est vrai qu'une des solutions qui a été évoquée aussi, pourquoi pas sortir au moment où il mène 14-0 ou peut-être juste un peu après quand il voit qu'il commence à baisser de cadence, remettre Cousins.
Ouais.
Et si Seattle repasse devant, essayer de remettre Griffin à la fin parce qu'il s'est un peu reposé, ou peut-être c'est que t'espères qu'il va faire la grosse action, quelque chose comme ça. Mais je suis d'avis aussi qu'il aurait fallu le changer, le sortir plus tôt, parce qu'il était vraiment trop handicapé.
Alors regarde le snap où il perd la balle, le fameux snap où il se blesse, il perd la balle, elle est récupérée par les Seahawks. Si ça avait été Kirk Cousins à ce moment-là dans le match, il y a de fortes chances que la balle il la récupère, enfin le genou de Kirk Cousins n'allait pas lâcher comme ça. Donc c'est, je pense que la décision de Shanahan de pas faire sortir Robert Griffin fait perdre l'équipe, enfin fait perdre, c'est dur à dire, on n'est pas sûr que l'équipe aurait pu battre les Seahawks, mais en tout cas ne facilite pas la tâche.
Bah, et puis surtout c'est d'autant plus dommage pour eux qu'ils perdent de 10 points. Justement ils perdent de 10 points en gagnant que 38 yards pendant 2 quarts temps. Ça veut dire qu'il y avait quand même un petit quelque chose à faire face à cette équipe de Seattle, aussi forte soit-elle. Quand tu pars avec 14 points d'avance, il y avait quelque chose à faire. Et c'est vrai que alors, les Seahawks sont bons, ils sont allés chercher ce match, ils ont remonté leur retard, il n'y a pas de souci. 14 points c'était leur plus gros retard de la saison, donc ça prouve aussi qu'ils ont le mental, qu'ils n'ont pas paniqué et qu'ils ont bien su rebondir. Ça c'est bien pour eux, mais il y avait quand même pour moi de la place à ce niveau-là. Jim Haslett a encore fait des choses pas mal avec cette défense à certains moments du match. On continue justement à penser qu'il se débrouille plutôt bien ce coordinateur. Donc voilà, c'est décevant pour moi au sens qu'il y avait à mon avis de la place pour ces Redskins pour passer. Peut-être justement si Cousins avait eu le temps de se mettre un peu dedans ou quoi que ce soit, parce que en le balançant derrière alors que la ligne par contre a fini par se faire détruire.
Ouais, mais je pense sur la fin, on voit c'est plus le fait que les joueurs des Redskins eux-mêmes n'y croyaient plus. Enfin, on voit 2-3 drops.
En plus,
les receveurs qui lâchent 2-3 ballons hyper faciles qu'ils avaient dans les mains un peu par désespoir. Quoi, donc.
Non mais voilà, bon, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Après, bon, rendons hommage quand même aux Seahawks, parce que sinon Camille va se retourner vers nous avec un regard noir. Ouais. 132 yards pour Marshawn Lynch, énorme match. Mais donc j'ai quand même lu ton résumé de match. Comme quoi, pour toi, Russell Wilson est le MVP du match.
Ouais, il a un début de match pas facile, c'est son premier match en tant que rookie en playoff. On aurait pu s'attendre à ce qu'il panique un peu, qu'il perde son potentiel. Et non, il a pas du tout stressé, il a pas forcé, il a fait ce qu'il savait faire, lancer quelques courses, lancer des très belles passes. Et ensuite, ça a commencé à dérouler, sa défense a aussi élevé le niveau de jeu et ils sont repassés logiquement devant. Donc vraiment une grosse maîtrise de sang-froid, je trouve, pour un rookie, quoi.
Moi, ce que j'ai aimé le plus chez Wilson, c'est les blocs.
Ah ouais, ce bloc sur la course de Lynch,
qui monte faire les blocs sur les courses de Marshawn Lynch, c'était assez magnifique. Et ça montre cet enthousiasme aussi, quoi, qu'il y a autour de cette attaque, qu'il y a autour de ce quarterback. C'est vraiment pas mal pour lui. Point fort toujours pour la défense. Il y a le trou en début de match, mais derrière ça c'est bien pris.
C'était propre.
Il y a rien à dire. Pas étincelant. Par rouleau compresseur qui a tout détruit, mais c'est très propre,
c'est solide, hein, vraiment.
Voilà, c'est très solide.
Jeu de course, défense, quarterback qui fait pas d'erreur.
Mais on va voir que c'est un peu le thème, on le dit tout le temps en playoff et on va le revoir avec les résumés de match de cette semaine. Le défense, jeu au sol et quarterback solide, c'est les playoffs, quoi.
Ouais,
c'est la recette.
D'autant plus, on a vu Wilson à un moment pendant le match, il y a sa stat qui a défilé dans la red zone, il a 18 touchdowns pour 0 interception cette saison. Donc voilà, enfin.
C'est ça, hein, une défense qui fait le boulot, un quarterback qui progresse.
Ils ont vraiment beaucoup d'armes.
Et un coureur qui progresse et un quarterback qui finit le boulot. C'est la recette parfaite. Qu'est-ce que ça va donner contre les Falcons? Réponse en deuxième partie d'émission. Teasing. Packers 24, Vikings 10, deuxième match. Beaucoup moins de choses à dire sur celui-là, on va pas se mentir.
Ouais.
À part que Christian Ponder, finalement, il a de la valeur.
Ah bah il a de la grosse valeur quand on voit son pauvre remplaçant Joe Webb, ce qu'il a fait sur le terrain. Alors je suis d'accord pour dire bon c'est pas facile, c'est son premier match de la saison, cela dit Moi, je trouve ça pas normal quand même. On l'a vu rater des passes sur des receveurs qui étaient tout seuls. Ce sac qui se prend contre Clay Matthews, qui est comique, où il tombe sur Clay Matthews.
Ouais, il tombe sur Matthews, le pauvre.
Enfin, je veux dire, ok, c'est pas facile, la situation. Ouais,
mais est-ce
pas
que
simple,
c'est pas les sacs les plus vicieux? Tu le vois pas venir, le mec, quand il est allongé derrière toi.
Oui, c'est vrai, mais. Non, mais. Enfin, moi, je trouve quand même que pour le coup, Joe Webb coule vraiment cette équipe. À un moment dans la saison, quand Ponder allait pas très bien, vous voyez certains demander ouais, est-ce que Joe Webb serait pas mieux? Bah là, voilà. Clairement non. Quoi.
Vous avez compris pourquoi Leslie Frazier a gardé Christian Ponder. Joe Webb termine à 11 sur 30, 180 yards, un touchdown, une interception. Les stats sont bien aidés par la deuxième mi-temps sans enjeu, hein, parce qu'en première mi-temps, c'est ça, c'était vraiment pas ça. 6 yards à la passe gagnés en première mi-temps, 6 yards net. Bon voilà, honnêtement, c'est un petit peu ennuyé.
Ouais.
Voilà, je dois l'avouer, je me tournais les pouces pendant le quatrième quart-temps en attendant d'écrire le résumé.
c'est pas faux.
C'était un peu longuel. Les Packers ont tranquillement creusé l'écart, on rappelle. Hein. Ils menaient 24 à 3 au début du troisième quart. Alors, est-ce que eux t'ont impressionné?
Impressionné, je sais pas. En fait, l'attaque, oui, je trouve ça déroule très bien avec Aaron Rodgers, même s'il est pas très content, on l'a vu dans la presse. Ils trouvent des receveurs différents, ça avance bien. La défense, je doute un peu plus parce que finalement, ils ont eu à faire une attaque qui était bien diminuée quand même par le fait que Christian Ponder n'était pas là.
Je trouve que Charles Woodson fait du bien quand même niveau peut-être leadership un peu dynamique. Ouais. Je l'ai trouvé un petit peu plus tranchant, même si c'est que Joe Webb en face.
C'est ça, mais c'est pour ça on a du mal à se positionner quand même face à cette défense. Elle prend 34 points la semaine dernière quand il y a Christian Ponder. Là, elle en prend 14 parce que Ponder n'est pas là. On aimerait bien.
Moi, je trouve. Enfin, c'est pas une défense de fou à la Seattle, mais je trouve que c'est une défense qui devrait pouvoir faire le taf. Il y a quand même deux fumbles recouverts, il y a une interception. Ça peut être suffisamment opportuniste pour gagner en playoff. Ils ont contenu Adrian Peterson, alors on va dire, ils avaient que lui à se concentrer.
Que ça à faire, ouais.
Mais ils avaient déjà plus ou moins que ça à faire les premières fois. Ils disaient qu'ils se concentraient sur lui et pas sur Ponder. Donc bon, ils l'ont limité à 99 yards, un touchdown. Il n'y a pas vraiment de quoi être déçu non plus par lui, il a fait ce qu'il a pu.
Non, bah oui.
Bon, il était attendu, hein, c'était pas un match affreux, encore une fois. Bon, encore une fois, on va pas vous vendre ça à mort, ça a pas été un match passionnant. Les Packers sont jamais vraiment été inquiétés, on aurait pu se passer du dernier quart. Un mot sur les Vikings quand même avant qu'ils partent en vacances, les perspectives d'avenir sont plutôt bonnes.
Ouais, si Christian Ponder arrive à bien se remettre de sa blessure et que contrairement à cette saison, il arrive à enchaîner un peu plus régulièrement les performances. Il y a moyen de voir les Vikings encore en course pour les playoffs l'an prochain, quoi.
Ah ouais, enfin, je pense qu'il va que progresser. De toute façon, il progresse lentement, mais sûrement. Il va avoir encore une intersaison de plus, complète, avec la confiance de son coach. Bon, il faut trouver une solution au problème Arvin, parce que Percy Arvin a l'air d'être
un peu partant.
Un petit peu partant et un petit peu caisse bonbon, on va dire. Donc, s'ils peuvent s'en débarrasser, c'est pas un souci. Alors, il est excellent. J'ai rien d'autre à dire. Écoute, mais s'ils ruinent l'équipe, ils ont fini la saison sans lui, ils sont allés en playoff sans lui. Ils peuvent trouver d'autres cibles, honnêtement, ça c'est pas le souci.
La défense, c'est pas trop mal aussi. Enfin,
faut picorer quelques petits renforcements, mais y a vraiment de quoi retourner en playoff l'an prochain, à mon avis. Équipe dans laquelle on peut plutôt avoir confiance. Allez, deuxième partie des matchs de la semaine, juste après ça. Ray Lewis, dernière à Baltimore cette année même pour toute sa vie. C'était la dernière, on l'a entendu crier avant le match, on l'a entendu crier après le match, et surtout ils ont gagné, Ravens 24, Colts 9. Il ne faut jamais enterrer les vieux, les playoffs c'est un truc de vieux.
Les
Colts c'était trop vert.
Trop vert, bah ouais, beaucoup d'entrées dans la red zone un peu pour rien, enfin un field goal même raté par Vinatieri, ce qui lui ressemble pas spécialement.
Je vais dire qu'il y avait de la place. Mais Andrew Luck était tellement mal protégé. Mais tellement mal protégé. Les Ravens ont fait un boulot correct en défense.
Ouais.
Mais Luck était tellement mal protégé. Il a pris 3 sacs, il a été touché au moins une dizaine de fois. C'était impossible de prendre un quelconque rythme. Il n'est pas aidé.
Ouais, non, sa ligne offensive, effectivement, l'aide pas beaucoup. Et comme il a fait face à une défense très dure sur l'homme, quoi, bah forcément sa prestation, on a subi les conséquences.
Androulak, je trouve, je serais tenté de dire qu'il a le plus de potentiel que les deux autres rookies de l'année. Parce que quand il pourra lancer une passe en ayant les deux pieds posés dans le sol, il sera redoutable. Parce que cette année, ça n'a pas été souvent le cas, quand même. Bon, ils ont manqué beaucoup de réalisme, les Colts. C'est aussi à ça qu'on voit qu'ils sont jeunes, 0 sur 3 dans la zone rouge au niveau des touchdowns. C'est fatal en playoff, c'est ce qu'on disait. Il faut être réaliste dans la zone rouge. Mmh. Et ça a manqué. C'est la grosse clé de ce match. Hein.
Ouais, essentiellement, vu que les Colts s'étaient pas trop mal débrouillés quand même en première mi-temps, ils bloquaient bien l'attaque des Ravens. En attaque, ça avançait un peu, mais effectivement, ils n'arrivaient pas à conclure dans la red zone. Donc,
Pas les Raiders, quoi. Tu dois mettre des touchdowns pour gagner en playoff. Ouais. C'est pas la saison régulière à Oakland. Alors, je sais pas, j'ai dit qu'il y avait de la place, je t'ai vu faire la moue.
Ouais, je suis pas persuadé quand même qu'il y avait tant de place que ça. Je vois les Ravens supérieurs sur ce match, que ce soit en attaque ou en défense. La victoire me semble logique.
Moi, je les ai trouvés un peu sur courant alternatif quand même. Joe Flacco est bien sauvé par Anquan Boldin qui fait un super troisième carton.
C'est vrai.
Enfin, une super deuxième mi-temps d'ailleurs, parce qu'il était un peu. Il capte un touchdown dans le dernier quart. Il a 5 réceptions, 145 yards, un touchdown dans Quan Boldin. Voilà, moi je trouve qu'il est un peu aidé par ça. Flacco, il termine à 12 sur 23, 282 yards, 2 touchdowns.
C'est pas très beau.
Sur l'impression, je le trouve pas très convaincant.
Non, il est pas convaincant. Bah, un peu à l'image de toute cette saison où l'attendait un peu à un meilleur niveau. Maintenant, ils perdent pas de ballon, c'est la clé, quoi. Ça perd pas de ballon en playoff. Il n'y a pas besoin, forcément, l'année où les Ravens gagnent le Super Bowl. Voilà, ils y vont avec un quarterback.
Trent Dilfer.
Voilà. J'avais un doute sur son nom, mais c'était pas un Peyton Manning qui était en attaque.
C'est vrai.
Donc, je me dis qu'avec une défense comme ça qui se retrouve un peu plus.
Ouais, mais c'est pas la même défense, quand même.
C'est pas la même défense. Mais
c'était des tueurs à cette époque-là.
C'est vrai aussi, ouais.
Dans tous les sens.
Non, mais on va dire que...
Certains auront saisi une réflexion assez perfide sur l'accusation de meurtre qui a porté sur Ray Lewis, mais il a été acquitté. Voilà, c'était pour quand même qu'on explique la blague, qu'on n'ait pas l'air de se marrer bêtement tous les deux. Donc je te laisse continuer.
Non, moi je les ai trouvés convaincants, je sais pas, il y a quelque chose un peu côté... les vétérans qui partent pour une dernière danse
non,
et qui vont au bout, quoi.
J'avoue que je suis assez. Il y avait ce côté-là. Lewis apporte quand même clairement quelque chose au niveau mental quand il est là. ce que j'ai adoré, par contre, dans les faits et sur le terrain, c'est Bernard Pierce, super coureur, hyper rapide. Et je trouve que ça.
Alors, bien
déjà,
Ray Rice
était dangereux, mais alors il y avait un super combo avec les deux, vraiment impressionnant. Paul Kruger en défense aussi, qui était très très affûté, deux sacs et demi et un fumble provoqué. Ray Lewis, on en parlait, 13 plaquages. Bon, un mot sur lui quand même, on est obligé. C'est ses derniers playoffs, c'est la fin de sa carrière, c'était son dernier match à Baltimore. Qu'est-ce que c'est Ray Lewis pour toi?
Ah, c'est surtout plus que les performances sportives, c'est la grosse hargne qu'il envoie sur le terrain, quoi. Il y a vraiment une présence quand il est là. Il y a une aura qui se dégage, quoi, de cette défense.
Alors, moi, je vais peut-être dire un truc un peu mal et un peu qui se dit pas trop ou qui est pas dans la tonce, mais honnêtement, j'accroche pas super.
Ouais.
J'aime bien le côté hargne, etc., qu'il apporte sur le terrain, mais il y a un moment où je trouve ça un peu trop. Et alors, encore une fois, je suis peut-être mauvaise langue, etc. Mais je suis traumatisé par un documentaire que j'ai vu sur NFL Network qui s'appelle Football Life, qui était consacré à Ray Lewis. Ouais. Et en fait, il est comme ça dans la vie tout le temps. Et donc, le mec, dans la vie, quand il rencontre quelqu'un ou quand il va voir des gens qu'il veut aider, etc., il hurle et il parle comme s'il était sur le terrain. Et il dit « Man, you know what, man? Yes, we are to save you, man !» Et en fait, c'est un peu flippant. Et je trouve ça pas très naturel. Donc j'avoue que j'ai un peu de mal. Je trouve que c'est un peu abusé. Et je sais pas, encore une fois, je suis mauvaise langue, je me demande ce que ça cache. Et je sais pas, il y a cette histoire. Alors encore une fois, je suis mauvaise langue, il y a cette histoire de meurtre dont il a été accusé. On n'a jamais retrouvé le costume qu'il portait ce soir-là. Il a témoigné contre contre deux autres personnes. Ouais. Ils ont été finalement acquittés, etc. Bon, machin. peut-être qu'il y a un petit truc à avoir là-dedans, ou, et qu'il essaye de, et peut-être qu'il essaye de faire le bien, justement, pour se faire pardonner dans sa vie, j'en sais rien. Mais peut-être, ce côté prêcheur avec lequel il parle tout le temps, au bout d'un moment, je trouve ça un peu too much, quoi. Et il parle tout le temps avec cette, c'est comme s'il était dans un speech d'avant-match, mais non-stop, 24h, quoi.
Ouais, bah.
Et, mais voilà, le personnage est très sympa, il va faire un super journaliste quand il sera dans les médias. Il n'y a pas de souci, et j'ai une part d'affection, comme tout le monde, pour Ray Lewis. Mais, au bout d'un moment, je serais peut-être un peu comme Reggie Wayne à dire c'était peut-être un petit peu too much. Bon, la danse d'avant-match, d'après-match et d'avant-match m'a pas dérangé, mais apparemment, c'est vrai qu'il y a eu des hommages à tous les cartons, comme disait Reggie Wayne et tout ça, et c'est vrai qu'il en avait un peu marre à la fin.
C'est vrai, ça peut se
Mais bon, le fait qu'il rentre sur le terrain pour la dernière action, par contre, je trouvais ça assez classe et je trouvais ça vraiment sympa pour la dernière action offensive. Mais après, pour le côté général, encore une fois, moi j'ai été traumatisé. Si vous pouvez voir ce documentaire, ça s'appelle A Football Life, Ray Lewis, et il hurle tout le temps. Il est tout le temps au taquet, voilà.
Très bonne série de documentaires d'ailleurs, enfin, en général.
Moi, je les trouve un petit peu dramatiques.
C'est le côté un peu.
Les Football Life et les documentaires de NFL Network, il y a toujours une musique dramatique. C'est toujours. And on this day. Genre, il y a toujours une voix dramatique, tu sais.
Ouais, mais c'est le côté un peu.
And the story was about to begin. Tu sais, genre, il y a toujours un truc. À l'inverse, je préfère les documentaires d'ESPN, les 30 for 30, qui sont magnifiques, qui justement vont parfois gratter un peu plus là où ça fait mal ou là où c'est un peu, où il se passe un peu plus de choses. Dans les documentaires NFL Network, attendez-vous en général à ce que tout soit génial, magnifique, dans la légende
policé,
et Hall of Fame, quoi. C'est un peu mon petit problème avec ces documentaires-là. J'aime bien quand on va creuser un petit peu au-delà, quoi. Bon, passons sur la parenthèse documentaire et Ray Lewis, mais fallait qu'on en parle, hein, c'est l'actu Ray Lewis. On va passer au match suivant, Texans 19, Bengals 13. Là encore, la défense plus jeu au sol, ça a été la clé.
Ouais, la clé, les Bengals n'ont pas réussi à bloquer Arian Foster. Donc forcément, il a fait beaucoup de bien à son attaque, parce que Matt Schaub, lui, n'a vraiment pas été convaincant pour le coup. Donc voilà, on sait que les Texans, leur salut passe par un gros Arian Foster dans le jeu.
Bah ils ont, oui, les Bengals ont mené 7-6, c'était grâce à un touchdown sur une interception. Ensuite les Texans sont repassés devant avec un touchdown d'Arian Foster justement dans le troisième quart. Ils étaient repassés devant avec un field goal, mais Foster a creusé l'écart. Les Bengals n'ont pas marqué un seul touchdown offensif. JJ Watt et sa défense ont mis la pression constamment sur Andy Dalton. Dalton termine à 14 sur 30, 127 yards, une interception. Elle est très vilaine, cette fiche. Est-ce que ce serait pas lui la grosse déception de ce match?
Si, c'est lui la grosse déception de ce match. On attendait qui continue en playoff sur son rythme de saison régulière où il fait un très bon mois de décembre. Voilà, après il y a eu quelques choix de coaching un peu étranges. Il a quasiment pas lancé sur Edgy Green en première mi-temps. Alors que quand il l'a fait en deuxième mi-temps, Edgy Green a quasiment capté tout ce qu'il pouvait. Il passe même dans la end zone, il y a une passe qui est un peu trop longue pour Edgy Green. Il manque quelques...
C'est vrai que Dalton a semblé un peu perdu. Alors, deuxième match de playoff, 0 touchdown, 4 interceptions au total. La question...
Il progresse, il passe de 3 à 1.
C'est ça, alors il y a un progrès, bientôt il en lancera une, il lancera un touchdown. Mais alors, certains médias américains appelaient déjà à se demander est-ce qu'il faudrait pas le remplacer, est-ce que ce serait pas trop un game manager, est-ce qu'il va progresser, etc.
Je trouve ça un peu dur tôt, là, quand même, deux saisons.
On est d'accord, c'est un peu tôt au sens que, aux dernières nouvelles, Matt Ryan a toujours gagné un match de playoff.
C'est ce que j'allais dire.
Ryan a 27 ans, Dalton en a 25, il a le temps de progresser encore, quoi.
On est d'accord.
Il a fait deux très bonnes saisons. Tony Romo a toujours sa chance aux dernières nouvelles. Bon, j'ai trouvé ça un peu dur là. Je vais te demander ton avis. J'avais lu ça, je trouvais ça quand même un peu sec.
Ouais, totalement. Je serais le coach et l'organisation de Cincinnati. Je continuerai à faire confiance à Dalton qui s'entend très bien avec Edgy Green. Autant continuer le duo et puis il va forcément progresser. Il n'y a aucune raison que ça passe pas, quoi.
Oui, non, c'est ça. Bon, encore une fois, il a un peu galéré. Il avait l'air un peu perdu. Il fixait pas mal son premier receveur. Peut-être que cibler Green tout de suite, ça aurait pu lui donner de la confiance plus rapidement.
Ouais.
Ça aurait été pas mal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter non plus. Oui, c'est un quarterback correct. Ce ne sera peut-être jamais Peyton Manning, mais ça peut être un quarterback suffisant pour gagner en playoff. Quand même pas. Justement, en parlant de quarterback suffisant pour gagner en playoff, Matt Schaub, 29 sur 38, 262 yards, une interception, pas beaucoup mieux quand même.
Ah non, pas beaucoup mieux au niveau de la précision, c'est pas trop mal. Mais enfin, il dégage pas une aisance qu'ont les grands quarterbacks en playoff et tout. Et on voit que si Arian Foster est pas là, on se demande comment cette attaque avance, quoi. Donc reste un petit peu inquiétant pour les Texans pour aller au bout.
Ouais, la satisfaction, ça reste, hein, la défense et Foster. Est-ce que ce sera suffisant contre les Patriots? On en parle dans la deuxième partie de l'émission, méga teasing double. On passe à l'actu de la semaine, c'est une nouvelle rubrique pendant les playoffs.
Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York.
Super jingle d'information. Today in New York, nous sommes là. Je sais plus à quelle chaîne on l'a piqué. c'est parti pour l'actu de la semaine. Pendant les playoffs, forcément, on parle pas de toutes les équipes. Alors, on parle un peu des celles qui ne sont plus là dans les actus de la semaine, avec les actus principales. Andy Reid à Kansas City, c'est la grosse info. Le premier coach viré, le premier coach à retrouver un boulot, c'était Andy Reid. Bravo pour Kansas City.
Ouais.
Vous avez le droit de déceler de l'ironie dans ma voix.
Ouais, c'est un peu dur.
Je vous y autorise.
C'est un peu dur quand même.
Moi, je suis. Alors, honnêtement, je suis convaincu par Andy Reid nulle part. Non, mais qu'est-ce qu'il apporte comme nouveauté et comme souffle à ta franchise au jour d'aujourd'hui ?
Bah, je sais pas, mais. Enfin, si on enlève
quatre
les
jours
deux
après,
dernières.
Fait virer.
Ouais, mais attends, si on enlève les deux dernières saisons qui étaient vraiment pas bonnes, il fait quand même un taf vraiment pas mal à Philadelphie. Avec. 5 ou 7 finales NFC, je sais plus.
Oui, mais.
Un Super Bowl. Joué. Je sais pas, dans l'état dans lequel sont les Chiefs.
Il a une expérience folle, d'accord. C'est vrai que ça peut leur servir, parce que c'est une franchise qui est au fond du trou à ce niveau-là, etc. Jeff Fisher, il a amené à Saint-Louis, puisqu'on prenons l'exemple d'un vieux qui revient.
Ouais.
Jeff Fisher, il a quand même amené une intensité défensive, une certaine présence, mmh. quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression que Reid puisse apporter ça dans l'état actuel des choses après la déconvenue. Justement, Fisher avait pris une ou deux années loin des terrains. Ouais. Je pense qu'il lui aurait fallu ça, au moins, même artificiellement, parce que ça marche toujours comme ça. Mais quand un coach s'en va, pendant un ou deux ans, au final, sa cote remonte parce qu'on dit ah ouais, bah, en fait, quand il était
il
là.
Était bon, ouais. C'était la belle époque.
Quatre jours après, Andy Reid. Avec l'air mou qu'il avait pendant les trucs, c'est vrai qu'il a pas l'air très vivace.
Non,
ce
c'est
bon
sûr,
Andy.
Il a pas l'air dynamisme.
Et encore
fou.
Une fois, moi je pense qu'il aurait peut-être fallu prendre un ou deux ans, histoire de faire remonter un peu artificiellement cette cote, dire ah bah oui c'est vrai, il avait comme tu dis, on oublie avec le temps, on oublie le négatif, etc. Parce que et c'est pour la même raison que tout le monde veut, enfin alors personne le veut en ce moment, mais John Gruden, Bill Cowher et tous les mecs qui font un peu rêver parce qu'ils ont gagné un titre avant. Ouais. Là, 4 jours après, je trouve ça un peu fort. Et alors, la situation est parfaite pour lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quarterback et un magnifique coureur. C'est, la recette est là pour que ce soit un succès.
Hein, c'est pas faux. C'est... Maintenant, je sais pas, moi je pense vraiment qu'il peut amener quelque chose à cette équipe des Chiefs. Comme on l'a dit, il a l'expérience. Là, il va être obligé quand même de s'appuyer sur un jeu de course parce qu'il a même pas le choix. Je veux dire, il va.
Est-ce
pas...
que franchement, il va appuyer sur le jeu
ouais,
de course?
Je pense.
Moi, j'y crois pas.
Ah, moi, je pense. Il a le choix. Non, mais attends.
La définition, on l'a déjà dit. Hein, la définition d'un bon coach, c'est celui qui sait s'adapter à ses joueurs pour en tirer le meilleur. Andy Reid, c'est celui qui veut absolument les faire rentrer dans son système. Et d'ailleurs, une petite aparté pour les fans NBA qui nous écoutaient, pensez Mike D'Antoni. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On peut continuer.
Non, mais je sais pas. Moi, je pense qu'il va quand même plus s'appuyer sur le jeu de course qu'à Philadelphie. Il a peut-être appris de ses erreurs.
Moi,
et puis, encore à Philadelphie, quand il voulait passer à fond, il avait quand même Donovan McNabb, Michael Vick.
Et en général,
et il a qui là ? Matt Cassel. Il va pas forcer avec Matt Cassel. Enfin, ouais, ça paraît
il
évident.
Il a forcé avec Kevin Kolb. Il a forcé avec Nick Foles. Il forcera avec n'importe qui.
Il a forcé spécialement. Ouais, je sais pas.
Il a forcé avec Michael Vick, qui est même pas un passeur pur.
Non, c'est sûr, mais.
En soi.
Moi, je lui donnerai une chance quand même, je serais moins négatif que toi.
Bon, alors on va rester sur le positif. Chip Kelly ne vient pas en NFL, c'est la deuxième info de la semaine. Oula, ça t'a tiré un pouf. Heureusement, ouais, tu l'as pas fait assez fort devant le micro. C'était le coach le plus convaincu de l'intersaison. Il a vu les Bills, il a vu les Eagles, il a vu les Browns, il va nulle part. C'était un peu la farce de la semaine dernière.
C'est ça, ouais. C'est...
Bon, moi, je suis déçu, en fait, je l'ai mis dans les infos parce que je suis déçu. On nous annonçait un génie offensif, ouais. Qu'il allait révolutionner le truc, etc. Du coup, j'avais hyper envie de voir ça, j'étais teasé à mort. Et on le verra pas, bon, je suis un peu déçu. Troisième info de la semaine, et ce sera notre dernière, le tatouage de Rex Ryan. Qui est quand même, alors,
que
à
dire.
La fois une info buzz, une info people, une info bizarre.
Tout ce
mais
que vous voulez.
On est obligé d'en parler parce que c'est tellement surréaliste qu'il fallait bien en parler. Donc ça, c'est vraiment la blague de la semaine. Hein. On pouvait pas faire juste une phrase dans le 2 minutes drill, pour être honnête.
C'est vrai.
Il fallait qu'on en parle. Donc, il a sur l'épaule Rex Ryan un tatouage de sa femme avec seulement un maillot vert avec le numéro 6.
Maillot de Marc Sanchez.
C'est hallucinant.
Ouais,
pas de mots.
Bien sûr, quand on voit la photo, on s'est demandé si c'était fait exprès, s'il avait voulu
si
créer le buzz,
si
ouais,
c'est voilà.
Ça. Puis après, on se dit, mince, c'est vrai, qu'est-ce qui lui vient dans la tête pour mettre sa femme en tatouage dans le maillot de son quarterback?
Alors, hier, il a répondu en conférence de presse, il a dit que c'était un truc qu'il avait depuis 3 ans. Donc, alors visiblement sa femme a dû rétrécir avec le maillot ces derniers temps, vu qu'il s'est fait poser un anneau gastrique et qu'il a fondu. Il était très très mince à la conférence de presse hier, je l'ai trouvé très amaigri. Donc non mais ça m'a choqué honnêtement, il était vraiment très amaigri, je sais pas si c'est l'habitude de voir son frère ou quoi. Désolé, on est très physique aujourd'hui. Donc non, en tout cas, il a expliqué que ça faisait 3 ans qu'il avait ce truc-là. Il a plaisanté en disant si Marc Sanchez joue mal, le numéro changera. Mais honnêtement, ouais, ça pose quand même des questions.
Ah bah ça pose des...
Alors d'abord, les questions, s'il change d'équipe, s'il change de quarterback, s'il change de femme, qui se fait faire ce genre de tatouage? Non mais personne devrait être autorisé à faire ça de toute façon. Se faire tatouer le portrait de sa femme, c'est hyper dangereux.
Non mais
ne le faites pas.
Cela dit, ça montre bien que la compétition pour le poste de quarterback chez les Jets est biaisée en fait. Enfin,
oui,
il
non,
veut de Marc Sanchez et il gardera Marc Sanchez.
Non, mais pour sa crédibilité, est-ce que ça peut jouer ou pas? Auprès des joueurs notamment.
Forcément, moi je pense. Enfin, tu me diras, ces joueurs l'ont peut-être déjà vu ce tatouage. Je sais pas comment ils se présentent dans les vestiaires.
C'est vrai.
Ce genre l'ont peut-être déjà vu.
Alors,
mais...
certains coachs prennent leur douche dans les vestiaires.
Voilà.
Je peux vous dire ça pour un souvenir traumatisant d'avoir croisé Josh McDaniels torse nu dans le vestiaire des Patriots à un moment. Enfin, traumatisant, non, mais ça surprend. Donc, peut-être qu'ils l'ont vu, mais c'est vrai que c'est quand même étrange.
Ouais.
C'est-à-dire que, mettons, on dit ils vont rire de ça, ils s'en foutent, etc. Mais ça reste quand même un petit peu dans ton esprit, quoi.
Bah, tu dis que le quarterback fait pas son taf, lui il va rester sur le terrain parce que c'est le chouchou du coach, et que toi on te pardonne pas tes erreurs et tout, ouais, c'est dur, hein. c'est
ouais,
pas évident.
Ouais, et puis je sais pas, même au-delà de l'aspect chouchou, ouais, et puis forcément oui, parce qu'il y a le numéro. Ouais, même au-delà de l'aspect chouchou, je pense qu'il y a un moment où tu te dis il est quand même frappé, quoi. Tu vois, tu te dis c'est mon coach, il est un peu dingue.
Ouais, mais
même.
Ça, je pense qu'il alors, y en a qui l'avait. Je pense qu'il l'avait déjà deviné qu'il était un peu dingue.
Ouais. Bon. À mon avis, c'est pas pour rien. Les Jets ont un peu de mal à trouver un nouveau general manager. C'est pareil, il va falloir trouver un candidat qui a envie d'aller bosser là-bas. Et il y en a quand même 2 ou 3 qui ont déjà fait demi-tour et qui ont refusé des entretiens d'embauche. Il y en a un qui a pris le poste des Jaguars à la place des Jets.
Bah, faut un espèce d'illuminé qui se dise qu'il peut le faire et qui part en mission.
Il y en a un qui
le
fera.
Quoi.
C'est un poste en NFL, il s'est payé des millions, etc. Mais certains ont quand même fait demi-tour, donc ça pose un problème sur l'ambiance quand même. Et donc, pour finir quand même, c'est sur des choses plus sérieuses au niveau des Jets, donc la conférence de presse d'hier, il a annoncé que c'est un nouveau début, il a annoncé qu'il repart de zéro, qu'il veut imprimer plus son identité à cette équipe, etc. Tu penses que c'est gérable après? C'est possible de dire ça après 4 ans?
Alors, j'ai un peu du mal à y croire forcément, mais dans le doute, on va lui laisser peut-être le bénéfice. Mais...
Encore une fois, moi j'aime bien le bonhomme, on rigole beaucoup et tout ça. Le personnage me fait relativement marrer, il est plutôt sympathique. Il est, voilà,
ouais, mais le problème, c'est est-ce que tu gagnes un Super Bowl avec un coach qui te fait marrer, quoi?
Voilà, c'est un peu l'autre problème. Quoi.
C'est un peu le problème. Quand on voit les derniers qui l'ont gagné, ils n'étaient pas spécialement drôles. Que ce soit Tomlin, Belichick, Coughlin,
c'est vrai. Bien qu'eux, ils ont un petit côté humain.
Ouais.
Non, mais ils le cachent bien, mais c'est vrai qu'apparemment, ils ont aussi un grand cœur.
Un militaire, l'Empire du Mal.
On parlait des documentaires Football Life, il y en a eu un sur Coughlin et un sur Belichick, donc on peut vous conseiller de les regarder. Bon, on découvre qu'ils ont aussi un côté humain et tout ça, malgré derrière leur devant très dur avec tout ça. Bon, c'est quand même des hommes. Mais c'est vrai que Ryan est très, très expressif, c'est quand même une autre catégorie, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que c'est pas évident de s'imaginer pour l'instant comme ça. Bon, on lui souhaite le meilleur quand même. Allez, jingle et histoire de fil.
Hello, this is Danny Woodhead of the New England Patriots, and you're listening to the Touchdown Podcast.
Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
L'histoire de Philippe cette semaine, c'est d'abord un grand merci pour toutes vos suggestions. L'une d'entre elles a retenu l'attention de Philippe, c'est celle sur la NFL Player Association, la NFLPA, syndicat des joueurs est chargé de tout négocier avec les propriétaires et la ligue et surtout les salaires. Dans les années 20, au commencement de la NFL, peu de règles encadraient la protection de l'intérêt des joueurs. Plus considérés comme du bétail, ils ont surtout à l'époque le droit de la fermer, de jouer et de ne rien réclamer. Si la NFLPA est aujourd'hui une institution forte, reconnue, incontournable, c'est le fruit d'une bataille de plusieurs décennies.
Il faut attendre 1956 pour voir se former un embryon de syndicat des joueurs. Deux mecs des Cleveland Browns, Abe Gibron et Dante Lavelli, contactent un avocat, ex-joueur de Notre-Dame, du nom de Creighton Miller. Miller rassemble alors quelques pointures de l'époque, Don Chula des Baltimore Colts, John Gordy à Détroit, Guy Ford, Huff des Giants et Norman Von Brooklyn des LA Rams pour monter une association crédible. Tellement crédible et si nécessaire qu'en novembre 56, la majorité des joueurs a déjà signé une carte laissant le droit à la NFLPA de négocier en leur nom. Les représentants de joueurs de 11 équipes sur 12, les Bears étant la seule exception, se joignent au syndicat. Le plus dur commence. En janvier 1957, se tient le rendez-vous des proprios de franchise dans le luxueux Waldorf Astoria Hotel de New York. L'association espère en profiter pour rencontrer le patron de la ligue, Bert Bell, et lui soumettre ses requêtes. Un salaire minimum dans toute la NFL, une compensation journalière pour les déplacements, le versement des salaires en cas de blessure et la prise en charge par les franchises des équipements des joueurs. Mais le plus gros point noir, c'est que les joueurs ne sont payés ni en camp d'entraînement ni lors des matchs amicaux. En gros, ils doivent attendre d'être sur le roster du premier match de la saison pour commencer à voir la couleur d'un dollar. Bell ignore le syndicat, le rendez-vous n'a pas lieu. Dans un pays où le mot socialisme est banni du langage courant, les patrons apprécient peu d'entendre la moindre revendication de leurs travailleurs et cela touche aussi l'encadrement des équipes. Exemple en 64, quand le centre All-Pro des Packers Jim Ringo prend son agent par la main et va voir son coach Vince Lombardi pour lui demander une rallonge. Lombardi, agacé, s'absente 5 minutes, revient et signifie à son joueur qu'il vient d'être transféré à Philadelphie. Puis il y a le cas d'Il Radovich, lineman des Lions en NFL, passé contre augmentation de salaire chez les Duns de Los Angeles en AAFC, la ligue concurrente. Radovich s'est retrouvé blacklisté en NFL, puis au chômage. C'est un peu le Spartacus de l'histoire syndicaliste du foot US, puisqu'il est le premier à porter plainte en 1957 en s'appuyant sur la loi antitrust américaine et le jugement rendu par la Cour suprême va ensuite lancer une série de batailles juridiques qui rééquilibrent lentement le pouvoir entre joueurs et NFL. Mais rien n'est simple, car au sein même de la NFLPA, on hésite entre le statut de syndicat pur et dur et celui d'association professionnelle. La Ligue a accepté plusieurs requêtes, mais se sert de cette discorde pour refuser toute négociation d'une convention générale sur les salaires, le fameux CBA. La NFLPA opte pour un syndicat indépendant en 1968 et vote dans la foulée la première grève de l'histoire du foot US. Lockout, puis accord à minima. Deux ans plus tard, la fusion AFL-NFL a lieu. Le syndicat place John Mackey, des Colts à sa tête. Nouvelle grève, puis nouvel accord. De là, chaque expiration des conventions a donné lieu à des grèves en 82 et 87 qui ont débouché sur de nouveaux accords. Le tout sur fond de procès médiatisés comme celui intenté par le mythique pass rusher Reggie White au nom de tous les joueurs et qui a engendré une refonte du système des agents libres, la mise en place d'un salary cap, puis le partage des revenus. Le partage, c'est bien de ça dont il était question lors du dernier lockout de 2011. 47% du revenu total de la Ligue tombe maintenant dans les poches des joueurs sous forme de salaire. $1 milliard est mis de côté pour les retraités, 50 millions sont investis dans la recherche médicale et le salaire des rookies est plafonné. L'accord court jusqu'en 2021, donc question grève, on devrait a priori être tranquille, mais vous l'aurez compris, le combat reste le même, on a juste changé d'échelle. Il est désormais loin, très loin, le temps des compensations à $50 versés pour un match amical.
Merci à Philippe pour cette chronique excellente. Comme d'habitude, on le retrouvera la semaine prochaine, Philippe Barcelona. Jingle et vos questions.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Question, c'est parti avec Raphaël qui a la main dans la casquette.
Alors, question de RJ Agus. Alors, cette question a peut-être déjà été posée, mais la draft de 2012 n'est-elle pas la meilleure de l'histoire de la NFL? Peut-on la comparer, par exemple, comme en NBA à la draft 2003?
Alors, il est peut-être un chouïto. C'est vrai. Ouais. Alors, pour la NBA, oui, parallèle avec la draft 2003, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est celle qui a sorti LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony et pas mal d'autres. Donc oui, bon, excellent draft, ça c'est sûr. Meilleur de l'histoire?
Peut-être.
Il va falloir un petit peu de temps pour le savoir.
Il y a la fameuse draft des Steelers. Alors, ça concerne que les Steelers, mais c'est l'an 60.
Oui, où ils avaient drafté plusieurs Hall of Famers.
Trois Hall of Famers ou quatre, je ne sais plus, la même année.
Alors, il y a des drafts fortes. J'ai jeté un petit œil quand même. Il y en a deux qui ressortent pas mal. La 1983, John Elway, Dan Marino, Jim Kelly, ouais. Eric Dickerson, qui est le détenteur du record de yards au sol que Peterson n'a pas battu. Bruce Matthews, énorme au niveau des sacks. Richard Dent, énorme joueur aussi. Darrell Green. Et sinon, la draft 2004. Pas si loin de nous, qui a déjà 4 titres avec Eli Manning et Ben Roethlisberger.
C'est vrai.
Philip Rivers, qui à une époque était un quarterback décent.
Était un bon quarterback.
Larry Fitzgerald, qui est pas un manchot.
C'est vrai.
Wes Welker, Jared Allen, Vince Wilfork.
Ouais, effectivement, belle draft aussi.
Il y a quand même du beau monde aussi dans cette draft 2004. Donc, à voir si la draft de cette année.
Faut confirmer, c'est le plus dur de tout.
Faut confirmer, on comptera dans 10-15 ans. Mais il y a le potentiel en tout cas pour se classer parmi ces drafts là, ouais, clairement. À mon tour de prendre un papier, un très gros papier avec plein de choses marquées dessus. Question de Miles Doom: pensez-vous que Robert Griffin III va faire une longue carrière? Il me semble qu'il a le profil d'une étoile qui brille très fort, qui disparaît très vite, blessé, usé. Ça, c'est la première question.
C'est pas faux, c'est l'inquiétude qu'on avait partagée d'ailleurs au tout début de saison, où on se demandait un quarterback qui court autant, est-ce que c'est pas trop risqué au niveau du
physique? C'est ce qu'on a dit la semaine dernière quand on nous demandait si la position de quarterback coureur c'était l'avenir, etc. Et que je disais qu'on en revient toujours au fait qu'il faut qu'il se transforme plus en passeur dans la poche et qu'il devienne des passeurs dans la poche, et que c'est pour ça que c'est pas viable sur le long terme.
C'est ça, c'est parce que si à chaque fin de saison Robert Griffin finit dans cet état-là au niveau du genou,
c'est Michael
Vick Bison
de toute façon. Et son genou d'ailleurs, il avait déjà eu une rupture d'un ligament quand il était à la fac, hein. Donc c'est la deuxième fois. Avec les progrès, enfin voilà, bon, maintenant on se remet plus entre guillemets plus facilement, parce que j'ai aucune envie de me taper les 6-8 mois de rééducation qu'il va faire, je lui souhaite du courage, mais on se remet plus facilement d'un ligament déchiré aujourd'hui qu'il y a 20 ans, donc c'est pas une fin de carrière, et après, bon, il va falloir qu'il apprenne à jouer plus dans la poche, à prendre plus de précautions quand il court, et puis à être soit plus honnête avec lui-même et son coach, soit ce que son coach prenne plus soin de lui aussi, ça pourra aider. Deuxième question: que pensez-vous de Matt Schaub? Sincèrement, je le trouve très moyen. J'ai limité une meilleure impression de son remplaçant de l'an dernier, petit TJ Yates, qu'on n'a pas revu du coup.
C'est vrai qu'on n'a pas revu, mais enfin, on en a déjà parlé de Matt Schaub. On a un doute sur lui, quoi.
Ouais, non, il y a un doute. C'est sûr que, en tout cas, ce sera jamais un grand quarterback. Non, quoi. On passera pas le cap de gestionnaire, visiblement. Peut-être sur quelques matchs, des fois, il a explosé, mais c'est pas régulier, quoi. Et puis enfin, je viens de découvrir la sélection des joueurs retenus pour le Pro Bowl. Jason Pierre-Paul, point d'interrogation. Il y a du bon à retenir de sa saison?
Pas vraiment. Enfin,
Express Giants.
Ouais, c'est pas une saison aussi catastrophique que certains veulent bien le faire croire.
Enfin, il y avait des defensive ends au-dessus quand même. Il y avait des defensive ends qui méritaient un peu plus dans la NFC quand même.
Ah non, par contre là-dessus on est d'accord.
Victor Cruz pour l'interrogation et pas Des Bryant, c'est pareil.
C'est vrai.
Ouais, c'est un peu. Parce que Bryant fait une fin de saison.
Les choix du Pro Bowl, on pourrait quasiment tous les commenter, quoi, je veux dire. Ouais.
Et puis donc Jamal Charles, pas super régulier, ok, avec les Chiefs il était pas aidé, en effet, ouais, avec les Chiefs il était pas aidé, parce que c'est vrai qu'il a le talent quand même relativement, Jamal Charles. Et puis sincèrement, ces joueurs me semblent surcotés par rapport à leur saison. Je ne dirais rien de plus sur Matt Schaub, mais j'en pense pas moins. Enfin, RG3 devant Breeze, c'est dur, non, sur cette saison? C'est pas spécialement dur. C'est vrai que Griffin avait été particulièrement impressionnant, il termine au-dessus des 100 d'évaluation. Breeze a lancé beaucoup plus d'interceptions en plus.
Question de Regleville: êtes-vous partisan des pelouses artificielles genre turf, ou plutôt des pelouses old school?
J'ai pas de
franchement,
grosse
je joue pas,
préférence. J'ai un petit côté. Après, pour nous,
du moment que la santé physique, enfin que la santé des joueurs est pas abîmée par la pousse, voilà.
Qui regardons la télé, forcément, c'est facile de dire. On préfère le. Enfin, moi, j'aime bien le côté pelouse naturelle, quand le mec en a dans le cas, dans la grille, le maillot est sali et des choses comme ça, c'est plus sympa. Même s'il pleut et qu'il y a de la boue, enfin, un peu de old school. Moi, j'aime bien le côté old school. Après, c'est vrai que bon, c'est pas évident. Enfin, pour eux, comme disait Greg Jennings, vous préférez quoi? Vous jouez dans un dôme ou vous jouez jouer dehors quand il fait 0 degré.
Oui, c'est ce qu'on
forcément, hein, si j'étais à leur place, je préférerais aussi jouer dans un dôme. Mais
Pense pour le coup, c'est surtout aux joueurs de choisir sur quoi.
Oui, après, c'est aux joueurs de choisir. Bon, ils font des très bonnes pelouses artificielles maintenant aussi. Hein. Ouais. Il y a des stades extérieurs qui ont des pelouses artificielles qui sont assez jolies et qui ont un rendu qui a l'air assez, assez naturel. Mais bon, après, le côté. Disons que moi je suis pour le old school mais bien entretenu, parce que les Redskins c'est un peu extrême quoi.
C'est vrai.
Ou alors le pire c'est les Raiders avec le morceau de terrain de baseball au milieu pendant la saison.
Ah, c'est sympa.
Alors là, c'est fabuleux.
Mais c'est
ça. En quoi une grille comme celle de Ray Lewis ou Justin Tuck change-t-elle d'une full cage classique? Question de Brice 971. C'est juste qu'on peut pas mettre les doigts dedans.
C'est ça, c'est
en théorie.
Difficile pour un face mask.
Ouais. En théorie, on peut pas les accrocher et mettre le doigt dedans, donc ils peuvent pas se faire tourner la tête.
Alors, question de Christophe. Un quarterback rookie est-il déjà allé au Super Bowl? Non.
Non, sauf si vous considérez. J'ai cherché, il y a une petite. Enfin, pas polémique, parce qu'il n'était pas rookie. Kurt Warner est le premier à avoir mené son équipe au Super Bowl dès sa première année en tant que titulaire.
En tant que titulaire.
Parce qu'il a débarqué. Mais d'accord. Comme il était en NFL Europe avant, etc., il n'était pas rookie à proprement parler. Il avait été testé, je me rappelle, par les Packers quelques années avant. Mais Warner a été le premier à arriver, première saison, mener l'équipe au Super Bowl et le gagner.
Ouais.
Et passer pour plus de 400 yards au Super Bowl, qui est toujours le record qui tient. Je crois qu'il a passé pour 413 yards au Super Bowl, Kurt Warner. Saison de fou furieux. Pensez-vous que la hiérarchie des quarterbacks rookies dessinée par le tour de Wildcard sera celle du futur, à savoir un Wilson un poil au-dessus de Luck et de Griffin? Question de RR9, qui a un excellent pseudo parce que Rajon Rondo est un meneur de jeu exceptionnel.
Non, pas spécialement convaincu que ça va montrer pour le futur.
Non,
moi,
non
je
plus.
Pense Luck un peu plus doué que les deux autres quand même au niveau des qualités.
C'est ça, je pense que la marge de progression de Wilson doit être un peu plus basse. Pour moi, je pense que son plafond est un peu plus bas que les deux autres.
Je suis pas sûr par rapport à Griffin.
Camille n'approuve pas, mais
moi, j'ai un doute par rapport à Griffin. Hein.
Oui, Griffin a un potentiel plus énorme avec ses jambes.
Ouais, mais je sais pas, moi je pense qu'on aura plutôt style Luck, Wilson et Griffin, mais...
Pour moi, oui c'est ça. Luck, Griffin en dessous de Wilson.
Ouais, moi je pense qu'il a moins de potentiel que...
Ah non, je suis pas d'accord. Ouais. Bah, pour moi, Griffin est quand même... Justement, moi si j'avais hésité, c'était à le mettre au-dessus de Luck, Griffin, qu'il peut faire des choses exceptionnelles.
Non. C'est trop un passeur old school, Luck, il va faire des saisons à la manie.
Mais pour moi, Luck est aussi supérieur, parce que ce que je disais, je pense qu'une fois qu'il aura du temps pour lancer, ce sera encore... un cran au-dessus.
Alors, question de Paco 11 qui m'est destinée. Comment Raphaël a pu miser sur les Bengals?
Ah oui, tiens, on avait parlé de mes paris un peu osés l'an dernier.
Je dis tout de suite, les Bengals, j'y croyais un peu, mais pas spécialement. C'était surtout pour faire flamber les cotes à Las Vegas.
Et encore une fois,
malheureusement.
Après le 14-0 des Redskins, ton Super Bowl Bengals-Seahawks, il semblait bien.
J'avais peur, mais...
Et qu'est-ce que je me sentais bien? Je me disais, le Redskins en finale de conférence, j'étais bon et tout. Non, rien du tout. Les Colts sont ils sauté trop d'étapes dans la reconstruction puisqu'ils ne pourront pas compenser leur trou avec de bons choix de draft? C'est pas un truc auquel je crois.
Je sais pas, moi je me dis c'est pas bête non plus, parce que le problème c'est que là ils vont pas pouvoir aller chercher très haut. Maintenant ils allaient pas gâcher leur saison pour récupérer très bien, il y a un petit côté loto. On peut très bien récupérer un très bon joueur au deuxième comme un mauvais au premier.
Je trouve pas que ce soit hyper important, au sens que c'est ça, il y a 7 tours à la draft NFL. Je crois qu'en plus ils ont fait des échanges, ils doivent en avoir en supplément dans les deux ou troisième tours. Moi honnêtement c'est pas un problème. Encore une fois, comme tu dis, ils ont fait le plein de confiance, ça vaut tout certains choix de draft qu'ils vont avoir. Donc ils ont fait le plein de confiance, la reconstruction est partie sur des bases de fous furieux. Je vois pas que ce soit un problème. Tu fais quelques petits ajouts avec la free agency pour quelques petits postes, tu construis pas avec la free agency, mais tu fais quelques petits ajouts stratégiques de bons joueurs, et après tu peux trouver un bon lineman au deuxième tour, tu peux trouver
même fin de premier tour, tu peux en avoir.
Et tu peux trouver un méga bust au premier tour avec le deuxième choix. Donc
d'accord.
Pour moi, c'est absolument pas un problème. Et des équipes comme les Patriots, comme les Packers, arrivent à se maintenir au plus haut niveau en draftant en troisième place tous les ans.
C'est vrai.
Donc je pense pas que ce soit un problème. Si tu draftes bien, si tu sais bien faire, je pense pas que ce soit un souci, parce que de toute façon, ce qu'il faut aller chercher en haut de la draft, c'est ton quarterback ou tes mecs décisifs. Leur quarterback, ils l'ont. Maintenant, ils peuvent construire autour de ça. Pourquoi le coach des Bengals a annoncé beaucoup plus de passes courtes que de passes longues, alors que la défense texane était à chaque fois à la limite de craquer?
On n'était pas sur le banc.
Malheureusement, il aurait dû. Cushing peut-il revenir cette saison? Je crois pas. Parce qu'il a dû être mis sur la liste des blessés, et je crois pas qu'il
ait
l'option
de retour. Il n'y a pas la mention retour, donc logiquement, il ne doit pas pouvoir revenir.
Voilà, tout ça, c'était des questions de les AJO. Une petite question de plus, allez. Jette un œil au chrono.
Très bien. Question de Birdie Nam Nam. On peut rêver d'une finale AFC Patriots contre Broncos et donc d'un duel Brady Manning. Quel est selon vous le meilleur des deux, ou du moins votre préféré?
Le débat sans fin.
Le débat sans fin, je préfère Manning, mais après c'est personnel. Enfin.
Bon, moi je préfère Brady, donc allons-y avec un argument chacun.
Manning, bah, la régularité au plus haut niveau depuis 11 ans, 12, 13. Ouais, 13 ans.
Bon, moi je vais dire les titres, monsieur.
Et il y a un petit edit, c'est mon premier commentaire sur ce site que je trouve formidable.
Eh bien, merci à toi et merci. On espère te revoir très souvent et n'hésite pas à poser des questions. Dernière question, allez, Ted Westside 44, y avait-il un contentieux entre Brandon Brunner,
ouais.
Des Seahawks et Pierre Garçon des Redskins auparavant parce qu'ils se sont fightés toute la soirée?
Ah ouais, c'était incroyable.
La réponse est non, c'est juste que Brandon Brunner a des conflits avec tout le monde. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Camille, tu confirmes?
Ouais, il y avait quand même des grosso modo. Matchs contre les...
Ah oui, et puis ils se sont embrouillés avant un coup d'envoi sur un. À ce qui paraît, l'an dernier ou l'année d'avant, ils se sont embrouillés même sur un tirage au sort.
Ouais.
Voilà, donc apparemment les Redskins, ouais, les Seahawks.
Mais après, ils s'en confondent, hein, si on dirait tout le match aussi. Comme
oui, après, bon, voilà, ces deux-là, ouais, Brunner et Garçon se voient tout le match, donc c'est vrai que.
Non, c'était sympa.
C'est pas évident, mais Brunner et Sherman ont des embrouilles
de tension,
avec.
Quand
ouais,
même.
Ouais, c'était un match très tendu. Ouais. Mais Brunner et Sherman, surtout Sherman d'ailleurs, ils ont des embrouilles avec tout le monde et ils les cherchent un peu. À ce niveau-là, surtout Sherman. Alors, Camille hausse les épaules, mais excusez-moi, Sherman il l'ouvre quand même un peu beaucoup.
Ouais, mais après il y a du chambrage dans le jeu, dans le match. Et
bon, si vous l'entendez pas, donc Camille me dit qu'il y a du chambrage dans le match et que voilà, ça fait partie du truc. Mais bon, l'ami Sherman, il parle beaucoup. Quand même. On va parler justement de Richard Sherman et des Seahawks juste après un jingle dans les matchs de la semaine. Niggas ain't scared to hustle. It's been 7 days, the same clothes. Ask them originals, cause they know. All step, Nate Dogg, fair goal. Step away from the mic, they too cold. The funk might crack to your nose. Oh no, avec l'interception manquée de Ray Lewis, parce qu'on a mis tout à l'heure un truc positif, on a balancé avec l'interception manquée de Ray Lewis. Les pronostics, alors les matchs de la semaine, avant, un point sur les pronostics, et le point sur les pronostics, on va le faire avec un poème de Rookie BZH, qui nous a été posté dans les commentaires du site, et qu'on remercie, parce que, alors, c'est vraiment un très joli poème, et il y a tout ce qui est en rime et tout ça, donc on tenait quand même à rendre honneur à Rookie BZH et à le lire à l'antenne. Donc le poème est le suivant, alors j'espère que je vais le lire comme il faut. L'année dernière, le petit Alain voulant jouer, il se mit à parier pour un Super Bowl avec les Chargers en février, car selon lui, ils étaient bien armés. Après une grosse désillusion et ne voulant plus passer pour un con, il se dit qu'en 2012, il fallait changer de ton. Malheureusement, la campagne 2012 fut désolante, et avec 13 points d'écart et une défaite humiliante, au sortir de cette saison régulière où il n'était pas très fier, son collègue Raphaël Masmejean lui fit un présent. Mais la première série de matchs fut atroce, hélas, et Raphaël prit 6 points de plus dans sa besace. Moralité, contrairement à ce que pensent les philosophes sceptiques, il existe bien une vérité certaine, l'homme dont le pronostic d'un match est opposé à celui d'Alain Mattei a toujours raison. Voilà, je vous remercie. Non mais alors merci, parce que c'est super marrant, ouais, quand vous faites des trucs originaux comme ça, ça nous fait toujours plaisir, donc on prend toujours plaisir à les lire à l'antenne. Donc la question, Raphaël accepte, donc la question de Rookie BZH du coup, puisque c'était une question, Raphaël, acceptes-tu un Super Bowl qui vaut 100 points pour laisser une ultime chance à ton compère? Alain, vas-tu parier l'année prochaine? De même, tu t'attends à des finales Broncos Patriots et Redskins Green Bay, peut-on raisonnablement s'attendre à un Baltimore Houston et un San Francisco Seahawks? Raisonnablement, je pense que oui.
Oui, cela dit, on peut s'y attendre. Hein.
On peut s'y attendre.
Pas...
Non, mais alors attendez, j'ai jamais dit que j'étais un roi des pronostics. On fait des pronostics dans cette émission. Malheureusement, c'est vrai que c'est pas mon gros point fort en soi. Je dois quand même préciser que dans le pick'em qu'on fait sur le site, j'ai un bien meilleur score. Je crois que je suis juste 3 ou 4 points derrière toi.
Je sais pas si ça va faire une
parce
semaine.
Parce que des fois, je fais des pronostics différents.
Je sais pas, j'ai oublié de parier sur le pick'em.
Et donc, je me fais moins avoir sur le pick'em, malheureusement. Mais c'est vrai que là, je suis assez catastrophique. Donc, merci à Rookie BZH pour ce poème qui rend hommage à mon ineptitude sur les pronostics. Donc, comme le résume le poème, j'ai pris 6 points de plus de retard.
Voilà,
je suis à combien?
19 points de retard. T'es à 159 et moi à 178. Donc voilà.
Ok, donc les points valent 4,
4, points,
4 points cette semaine.
Ah, bon, il va falloir faire 4 différences.
Ben, je vais pronostiquer tout l'inverse de toi, hein, de toute façon, ça, c'est clair. Premier match, Broncos, tête de série numéro 1, Ravens, tête de série numéro 4. C'est dans l'AFC, c'est coup d'envoi samedi 22h30. Je vais le dire de suite, si les Ravens jouent comme dimanche contre les Colts, ils vont, contre les Broncos, habitude manique, contre les Broncos, ils vont se faire plier.
Ah, tu vois ça comme ça, toi.
Ouais. C'est clair ou pas?
Non, je pense qu'on pourrait en discuter un peu plus. Même si les Broncos sont une des, enfin, sont top 5 en attaque, en défense, il y a quand même, il y a tout.
Et ils ont le quarterback le plus régulier de l'histoire, t'as dit.
Ouais, en saison régulière. Ah, voilà. Et là, j'en viens.
Parce que Brady a les titres, monsieur.
Voilà. Et là, j'en viens à mon petit doute pour ce match. C'est que Peyton Manning est un très grand quarterback de saison régulière. Par contre, en playoff.
Paris sur les Ravens, ça m'arrangerait.
Par contre, en playoff, j'ai un petit doute sur Peyton Manning. Je sais pas.
Petit rappel des faits, semaine 15, les Broncos ont gagné 34-17. Le 17, c'est parce que Baltimore a marqué 2 touchdowns pour sauver l'honneur dans le dernier quart, sinon ils s'étaient fait plier. Les Broncos, donc tu l'as dit, top 5 attaque, top 5 défense. Peyton Manning, Von Miller. Pour moi, ça paraît largement en faveur des Broncos. Après, comme tu l'as dit, c'est les playoffs. Peyton Manning a parfois du mal. C'est la première fois qu'il va jouer dans le très très gros froid de Denver. Ça, c'était le seul petit truc qui m'avait choqué quand il avait choisi Denver. C'était justement le froid parce que c'est un habitué des dômes. Il n'a pas un gros pourcentage de réussite dans le froid. Il s'est habitué à jouer avec un gant maintenant. Franchement, encore une fois, je pense qu'il va falloir un gros progrès des Ravens. Flacco a l'air toujours pas au niveau. Sean Bailey, Tracy Porter, c'est pas la même chose que ce qu'il a vu cette semaine au niveau de la défense. Von Miller, Wesley Woodyard, c'est pas la même chose qu'il a vu cette semaine. Les Broncos ont 52 sacks cette saison, c'est le plus gros pass rush de la ligue. Ils sont les meilleurs à ce niveau-là. Donc c'est pas comme s'il allait être tranquille en plus.
C'est vrai.
Les Broncos ont la troisième défense au sol en saison régulière. Ray Rice a été limité à 38 yards au match aller. Ça fait beaucoup beaucoup de soucis. Ça fait encore plus de pression sur Flacco en plus. Ça fait beaucoup de soucis pour Baltimore. Pour moi.
On est d'accord sur le papier, dans les faits, les Broncos ont les armes pour largement dominer ce match et pour le gagner sans aucun souci. Maintenant, c'est toujours le risque de faire face à une équipe de vieux expérimentés comme ça. Les Ravens, c'est pas la première fois qu'en playoff, ils sont pas forcément les favoris et qu'ils peuvent sortir un match pour le gagner. Voilà, je pense qu'en défense, ils ont les armes pour un peu embêter Peyton Manning. Et l'attaque, pour moi, ouais, c'est l'attaque qui va être le facteur X un peu de ce match, l'attaque des Ravens. Si Flacco arrive à élever son niveau de jeu et à poser quelques soucis à la défense de Denver, là, ils peuvent espérer suivre un peu Peyton Manning. Et après, c'est un match serré, les playoffs, on ne sait jamais ce qui peut vraiment arriver. Quoi.
Pronostic.
Les Ravens.
Les Broncos pour moi, ça m'arrange, je voulais pronostiquer ça. Bon, alors, deuxième match, 49ers, tête de série numéro 2, Packers, tête de série numéro 3, dans la conférence NFC, coup d'envoi dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin. Et là, c'est une revanche aussi. En ouverture de la saison, les 49ers ont gagné 30-22, ils avaient gagné 186 yards au sol. Superbe opposition en perspective entre l'attaque des Packers et la défense des 49ers.
Ouais, c'est une revanche de la semaine 1, mais qui a pas grand chose à voir quand même avec la semaine 1. Entre temps, Aaron Rodgers a retrouvé un excellent niveau. Colin Kaepernick est devenu le quarterback titulaire des 49ers. Donc il y a beaucoup de différences sur ce match qui va être très serré forcément. Jeu au sol plutôt et défense du côté des 49ers. Quarterback du côté des Packers, voilà, j'ai un petit trou.
Oui, non, pour moi, une des clés, ça va être la protection d'Aaron Rodgers, qui va être mise à rude épreuve. Alors, il va falloir voir si Justin Smith joue bien. Ça va être une des clés aussi du match, parce qu'ils ont eu du mal vraiment sans lui en défense. Ça peut être vraiment aussi un des gros problèmes. Si Justin Smith n'est pas bien et qu'ils encaissent autant de points que les dernières semaines, parce qu'ils avaient pris quand même quelques points, ça va se compliquer largement pour les 49ers. Après, la protection d'Aaron Rodgers, elle est ce qu'elle est. Quelqu'un l'a fait remarquer d'ailleurs dans les questions de la semaine. Et c'est vrai, c'est totalement vrai, que la protection d'Aaron Rodgers est peut-être pas top, mais il s'accroche beaucoup au ballon.
C'est vrai.
Aaron Rodgers s'accroche beaucoup au ballon, il préfère prendre un sac que prendre une interception, et c'est tout à son honneur.
C'est bien, ouais.
Il y en a plus qui devraient le faire. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Bon, elle n'est pas si catastrophique que ça, mais le fait est qu'elle va souffrir face à Aldon Smith. Rodgers, bon, après, est tellement bon, honnêtement, surtout en ce moment, je ne vois pas trop ça le perturber. Je pense qu'ils peuvent mettre des points. La grosse question pour moi, ça reste la défense des Packers.
Ouais, c'est la clé de ce match. Comment elle va réussir à bloquer Colin Kaepernick, qui lui aussi, on se pose des questions. Son premier match de playoff, comment il va réussir à gérer cette attaque.
C'est une sorte de Joe Webb qui sait jouer, quoi.
Ouais, c'est... Ah oui, si, t'as raison.
C'est Joe Webb qui saurait faire tout ce qu'il aimerait faire. Joe Webb, ouais. Il essaye des trucs, mais ça marche pas. Kaepernick les maîtrise, ces choses-là.
C'est vrai.
Donc, il y a le jeu au sol, qui est une chose, parce qu'ils sont beaucoup moins solides au sol aussi. Ils ont réussi à stopper Peterson, là, il faut stopper Gore. Après, derrière, Kaepernick peut réussir quelques grosses actions avec ses jambes, il l'a montré.
Rodgers aussi est capable de sortir quelques actions.
Oui, Rodgers aussi, mais je parlais vraiment par rapport à la défense des Packers. Okay. Il peut donc les mettre en difficulté là-dessus, il peut trouver Crabtree, il peut trouver Moss. Peut-être qu'il peut sortir de là pour les playoffs. Voilà, bon, donc ça peut faire quelque chose. Après, est-ce que... Enfin, je pense que Rodgers peut imprimer le rythme.
C'est possible.
Et obliger Kaepernick à essayer de le suivre. Et à ce moment-là, est-ce que lui peut?
Ouais, c'est un peu la question. Bah, il s'était pas trop mal débrouillé quand même contre les Patriots, si on garde en mémoire ce match contre les...
C'est vrai.
Maintenant, la défense des Packers n'est pas forcément non plus celle des Patriots. Je dis pas qu'elle est meilleure.
Un petit peu meilleure.
Ouais, peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est un peu 50-50.
Parce que les Packers, autre paramètre d'ailleurs, les Packers n'ont pas joué une équipe qui joue type read option offense. Donc, comme le jouent les Redskins cette année, comme jouent les 49ers, etc. Ils n'en ont pas joué une seule pendant toute la saison régulière. Ce qui peut jouer un peu sur leur défense, peut-être ils auraient pu bénéficier de cette préparation. Je pense que ça peut mettre leur défense en difficulté. Honnêtement, je pense que du coup ça va être animé au niveau des points. Je pense que ça peut être un match offensif au final.
Ouais, c'est possible. Puis on va voir aussi une super bataille de kicker entre Akers et Crosby.
Planquer les enfants dans les tribunes, hein, parce qu'il y a des gens qui vont se faire assommer. Hein.
C'est possible, ouais.
Puis parce que si c'est pas Akers, c'est qu'une diff. Hein. Ouais. Donc c'est pareil.
D'ailleurs, quel choix étrange de prendre un kicker qui a raté le coup de pied de la victoire l'an dernier.
Oui.
Fait un peu peur quand même comme choix.
Le truc, c'est qu'à cette période-là, il n'y a pas grand monde sur le marché de toute façon. Donc, en tout cas, donc, ouais, moi je pense que ça peut être un match offensif parce que Rodgers peut faire sauter le verrou 49ers et Kaepernick peut le suivre un peu. Offensif, mais pour qui? Pronostic?
Les Packers.
Ben, je voulais pronostiquer les Packers aussi. Bon, ben, je vais pronostiquer les 49ers. Je pense Packers au fond de moi, hein, je vous le dis comme ça. Mais. Je vais pronostiquer les 49ers pour essayer de remonter mon retard. Ce serait bien que j'arrive à faire un 100%. Là. Je remonterai quoi 4 fois 4, 16. Ouais. J'ai combien de retard? 19.
19.
Oh, yeah. Ce serait beau.
It's Lynch. First down. Still going. Gets a block from his quarterback and is in for the touchdown.
Falcons, tête de série numéro 1 dans la NFC. Seahawks, tête de série numéro 5 dans la NFC. Coup d'envoi dimanche à 19h à l'heure du dîner. C'est le troisième match de la semaine et c'est donc l'entrée en lice des Falcons. Éternel mal-aimé des playoffs. Est-ce que cette fois, tu penses que Mike Smith et Matt Ryan vont décrocher leur première victoire en phase finale?
Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais c'est vrai que c'est... Peut-être que moi j'attends le plus là, de ces playoffs, voir si enfin les Falcons passent un cap.
Au final, on parle plus trop d'eux depuis 4-5 semaines, depuis qu'ils sont qualifiés. Oui, donc maintenant, il est temps de voir.
Voilà.
Moi, je pense que oui. Je m'engage.
Ils ont des bonnes armes. Pour moi, ils sont le meilleur duo de receveurs de la ligue.
Ouais,
Julio Jones, Roddy White, c'est impressionnant.
S'il y a bien deux gars qui peuvent s'opposer à Bronner et Sherman.
Ouais.
C'est Jones et White.
Tony
Gonzalez en plus, c'est ça aussi qui est mortel. C'est qu'ils ont des options en plus. Il y a Harry Douglas qui est pas mauvais aussi. Ils ont des options. Leur défense est complète. Elle est solide. Elle est opportuniste. Elle est hyper cotée, mais elle est
pas hyper cotée parce qu'il y a pas de star. Faut le dire. Voilà. Enfin, il y a pas de.
Non, c'est ça. Il n'y a pas de superstar. Leur attaque est hyper explosive. Ils sont reposés. Ils en ont sûrement marre d'entendre qu'ils sont des losers.
Oui.
Alors,
je pense.
Pourquoi pas? Chris Claymont, c'est pas là. Pour mettre la pression, ça peut aider un peu, même s'il y a beaucoup de monde à Seattle. Leur ligne offensive est pas mal. Ils ont des receveurs exceptionnels, ils ont des tas de cibles. Pourquoi pas?
Ah, mais je suis totalement d'accord. Ils ont beaucoup d'armes pour ce match. En plus, ils jouent à la maison. Comme tu l'as dit, ils ont une défense qui fait beaucoup de turnovers, notamment au niveau des interceptions, qui a intercepté 4 fois Peyton Manning cette saison. 3 fois Eli. Enfin, ils ont vraiment de quoi mettre à mal les Seahawks. Maintenant, petite question aussi que j'ai un peu, c'est les choix stratégiques de Mike Smith, qui l'année dernière, rappelons-nous, face aux Giants, avait fait quelques choix étranges, alors qu'il pouvait mener avec des field goals, qui a préféré tenter des quatrièmes.
Il aime un peu oser.
Voilà. Je pense que...
Oui, mais ça se trouve, cette année, ça passe et c'est un génie. Quoi.
Cette année, ça passe. Non, mais voilà, c'est ça. Mais vraiment, ce qu'on attend, c'est ce révélateur Atlanta. Surtout, je les vois bien, tu vois, s'ils passent un cap psychologique et aller loin. Et...
Moi, je pense, j'ai entendu dire pendant la saison, justement, qu'ils avaient plus peur de personne, qu'ils s'en foutaient de qui ils allaient jouer, qu'ils étaient là pour aller au bout. Mmh. Je pense que ça peut le faire. Alors, les Seahawks sont forts, ils ont une énorme défense. Quant à leur défense et leur jeu au sol, t'es dans tous les matchs, c'est jamais, tu te fais jamais exploser. Ce qui me fait peur,
c'est... Faudra rentrer un peu plus vite, quand même, sur le terrain que contre le match des Redskins, parce que aussi, 14-0...
Puis parce que Matt Ryan a ses deux genoux, donc lui, il finira le boulot. Ce qui m'inquiète, les Falcons ont la 21e défense au sol face à Marshawn Lynch. Voilà. C'est le problème. Pour moi, le facteur X, du coup, c'est Michael Turner et Jacquizz Rodgers, qui ont été pas spécialement bons pendant la saison.
Non, c'est vrai.
Donc, s'ils peuvent se sortir un peu de ce match et se montrer un peu, ça peut être le gros point qui fera tourner en faveur d'Atlanta.
Ouais, mais c'est pas évident de sortir face à la défense des Seahawks.
Ça, j'ai jamais dit que ce serait facile.
Ça va pas être évident.
Pour moi, ça peut être une des clés. S'ils arrivent à établir un peu de jeu au sol, et voilà. Mais après, bon, faudra. Je pense que rien qu'avec leur jeu aérien, mais leur jeu aérien peut trouver des solutions.
Oui.
Et après, leur défense peut provoquer une ou deux pertes de balles. Pour moi, ils sont dedans. Et j'en ferai presque mes petits favoris. Ils jouent à la maison. Va y avoir du bruit. Et la pression s'est mise quasiment sur les Seahawks.
Ça, après le bruit, je suis pas persuadé que ça gêne vraiment les Seahawks.
Les Seahawks, ils ont l'habitude, mais.
Mais
si tu veux, comme tu disais, je pense que il y a ces interceptions, etc. Ça peut quand même être bruyant. Bon, il y aura pas de bruit dans les enceintes, peut-être comme à Washington. Mais ce qui m'inquiète le plus pour les Seahawks, je pense que c'est que la pression s'est mise sur eux. Je pense que maintenant
ils sont un peu attendus.
Ils sont presque plus attendus que les Falcons au jour d'aujourd'hui.
Je sais pas s'ils sont plus attendus dans le sens qu'on attend quand même enfin que les Falcons passent un cap. Ils ont la tête de série numéro 1. Ils jouent à domicile.
Ouais, mais on parle tellement des
Seahawks. Matt Ryan a plus la pression que Russell Wilson.
Ouais, mais on parle tellement des Seahawks, on a tellement enterré les Falcons. Je lis des tonnes de fans des Falcons sur Facebook, Twitter, etc. en ce moment, qui disent c'est encore la semaine où on va nous enterrer, dire qu'on va être mauvais, etc. Je pense que tout le monde, ils ont plus de pression, moi je pense. Et je pense que ça joue pour eux.
Je suis pas sûr qu'ils aient plus de pression maintenant. Pour moi, les Seahawks sont quand même les armes pour aller les embêter, notamment au sol, avec Russell Wilson, en plus de Lynch, qui est capable d'apporter une menace au sol par certaines courses, etc.
Alors, pronostic time.
Les Seahawks.
Et Falcons, pour moi. C'est bien, en plus, tu pronostiques l'inverse, alors que je... Bon, donc Falcons pour moi, Seahawks pour toi. Dernier match, Patriots, tête de série numéro 2, Texans, tête de série numéro 3 dans la AFC. Coup d'envoi dimanche 22h30. Je vais commencer par un petit mot encourageant pour les Texans. Sur le papier... Vous avez les deux choses nécessaires pour battre les Patriots. 1, vous avez perdu en saison régulière contre eux. 2, vous avez un gros pass rush. C'est comme ça que les Giants font à chaque fois. Vous avez toutes vos chances. Les Jets l'ont fait en 2010 aussi. Ils s'étaient fait exploser en saison régulière et ils avaient gagné en playoff. Donc, en dehors de ça, est-ce qu'ils ont des arguments ?
Bah, en tout cas, j'espère que ça sera un peu plus serré qu'en saison régulière, sinon on risque de s'embêter gravement à 22h. Mais oui, ils ont les arguments, comme tu l'as dit, ils ont ce pass rush qui fait si mal à Tom Brady ces dernières années. J.J. Watt est capable vraiment d'aller mettre la pression sur Tom Brady et c'est la clé du match. Ouais, c'est
toujours,
mettre
c'est
Brady
toujours la clé avec les Patriots.
Quoi,
c'est toujours la clé avec les Patriots en playoff maintenant, c'est-à-dire les empêcher de marquer de plus de 25 points. Quoi. Grosso modo. C'est comme ça que tu fais en playoff ces dernières années avec les Patriots.
Cela dit, en plus, ils peuvent bien gérer le tempo avec Arian Foster, ça pourrait les aider énormément. Garder Brady sur le banc, Foster qui avance lentement, mais qui avance.
C'est ça, c'est comme on fait les Giants à chaque fois, c'est-à-dire que tu fais des longs drives, tu gardes Brady loin, tu le fais sortir vite.
Tu mets tout de suite la pression.
Ils gagnent moins de 25 points, et ils mettent moins de 25 points, et t'en mets un peu plus, et c'est comme ça que ça passe. La défense, alors, mais encore... Ils ont une chance avec ça, etc. Après, c'est sûr que sur ce qu'on a vu en saison régulière...
Il y a peu de chance.
C'est dur. Parce que bon, J.J. Watt, il est là, mais bon, en face, c'est pas Andy Dalton non plus.
C'est vrai.
Il n'y a pas que Edgy Green au niveau des cibles. C'est-à-dire que Brady peut se débarrasser du ballon un peu plus vite et un peu n'importe où. Gronk est de retour et il va être là en force. Donc bon, les Patriots sont quand même pas mal. Différence aussi avec les playoffs ces dernières années, ils ont l'air d'avoir un coureur avec Steven Ridley.
C'est vrai.
Ils ont l'air d'avoir, voilà, Steven Ridley avec des petites touches de Woodhead et des
petites touches de Verrett. Une défense un peu plus opportuniste aussi.
La défense, voilà. Alors ça va être le révélateur qu'on attendait. On parlait des Falcons qu'on attendait depuis plusieurs semaines. On va enfin voir si la défense des Patriots peut élever son niveau de jeu au moment des playoffs. Ils ont, alors, notamment au sol, ils ont la 9e défense de la ligue.
C'est pas mal.
Au sol, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne contre Arian Foster. Ça remet la pression sur Matt Schaub. Là, ça peut se compliquer.
Voilà.
Avec peut-être une petite interception opportuniste ou deux. Vince Wilfork aussi, qui aura un rôle prépondérant, parce que lui, il peut faire énormément de mal en faisant
en même temps,
la pression.
Facile. Enfin, mais comment dire, Matt Schaub, ouais, c'est un peu aussi le problème. C'est que s'il n'arrive pas à élever son niveau de jeu, ça risque d'être quand même très compliqué pour les Texans. Parce que à ce niveau de jeu-là, même si Brady ne met pas beaucoup de points, Matt Schaub, je le vois pas en mettre non plus. Énormément.
C'est ça. Alors, et la clé, ça pourrait être ça aussi, c'est-à-dire que comme en saison régulière, faut pas que les Patriots se détachent trop vite. Parce que s'ils se détachent trop vite, là,
ils vont devoir passer à fond. Et là, ça...
C'est une longue soirée, ils en remettront et ce sera compliqué. Donc, les Texans, ouais, ont des armes, des bases sur le papier, mais on dirait quand même qu'ils font un peu un cran au-dessous en attaque.
Je suis d'accord.
Et donc, c'est vrai que Tom Brady peut marquer des points à cette défense. Donc, il faut voir aussi si Schaub peut suivre, ce qui est quand même une autre paire de manches. Parce qu'il y a moins de receveurs aussi sur lesquels se concentrer en défense quand tu défends les Texans. Parce que c'est pas, y a pas beaucoup de monde
autour d'André Johnson. Voilà. Quoi.
Donc, les Patriots peuvent se débrouiller avec ça, à mon avis. Ils sont largement favoris de ce match quand même.
Je suis d'accord.
Au niveau des pronostics...
Bah, les Patriots quand même là pour le coup.
Bon, je suis obligé d'être honnête, donc je vais prendre les Patriots aussi quand même. Je peux pas parier sur les Texans. Si tiens, je vais parier sur les Texans, ouais, on est plus à ça près.
Ah, c'est peut-être le coup.
Non, attends, je vais la jouer raisonnable.
Ah, tu remontes 12 après, ça vaut 5 points.
Ouais, ouais. Je vais jouer raisonnable. Je pronostique les Patriots. Voilà. Déjà, si j'arrivais à remonter sur les 3 matchs, les 3 autres matchs, ce serait bien.
Et là, les auditeurs vont parier sur les Texans sur internet. Gros scotch chat noir.
Tout le monde va parier en masse sur les Texans parce que j'ai dit les Patriots. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Allez, on termine ce podcast avec le 2 minute drill comme d'habitude. C'est parti. Adrian Peterson veut gagner 2500 yards l'an prochain. Possible ou pas?
Non, j'y crois pas. Un peu moins, mais. Ed Reed dit ne pas encore penser à une éventuelle retraite. Est-ce que tu penses qu'il reviendra l'an prochain?
Je commence à sérieusement douter. S'il gagne le titre, à mon avis, il revient pas. Est-ce que tu penses que les Colts vont réussir à garder Bruce Arians?
Ouais, ça serait pas mal qu'il le garde un an de plus pour continuer la construction. Ray Lewis signerait avec ESPN pour être analyste après sa carrière. Quel autre joueur actuel tu verras bien à la télé?
Richard Sherman, justement, on en parlait, ce serait génial, il pourrait crier sur tout le monde, ce serait magnifique. Greg Jennings préférerait jouer dans un dôme, sa sœur critique Aaron Rodgers. Est-ce que tu penses qu'il ne sera plus un Packer l'an prochain?
Ouais, je vais bien aller chercher le soleil du côté de Miami. Pronostic, est-ce que Percy Irvin sera encore dans le Minnesota l'an prochain?
J'aurais bien dit que je le voyais aller chercher le soleil chez Miami, mais non, parce que je crois qu'ils ont décidé de se débarrasser des cas sociaux avec Brandon Marshall quand ils l'ont mis dehors. Mais je pense pas qu'il sera à Minnesota l'an prochain non plus, Percy Irvin. Enfin, Kate Upton taille méchamment les Jets sur Twitter. Elle a dit ne vous en faites pas, Notre-Dame, ça arrive aux Jets tous les jours alors que Notre-Dame est en train de se faire plier par Alabama. Toujours énervé contre Mark Sanchez d'après toi?
Ouais. Probablement.
Je pense qu'elle est énervée contre elle-même, surtout. Elle s'en veut d'être sortie avec Marc Sanchez. Voilà pour le podcast de Jeune Actu, épisode numéro 25. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi. Alors, non, on se retrouve pas mercredi prochain d'ailleurs. Exceptionnellement, on se retrouve mardi prochain, mardi soir, pour le numéro 46. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos remarques sur l'émission podcast@jeuneactu.com. En attendant, comme d'habitude, toutes les news, les résultats et l'actu de la NFL en général, ça se passe sur touchdownactu.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous visiter, on bat nos records de visite tous les lundis et on vous remercie énormément pour ça. Très bonne fin de semaine à tous et très bon week-end de match. Ciao ciao. The old man's step in his feet.
applied to the body. The teeth are extruded and bones are ground. That makes it a case which I passed around.
Is the afterlife? You could be headed for the serious strife. Now you make the scene all day, but tomorrow there'll be hell to pay.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.